Yvan Hamar.
Marie Trèpe, stompin dans la soupe. Ah. C'est bien la danse des mots. Il est rare que je m'autorise à chanter à l'antenne et même hors antenne, je dois le dire, parce que bien souvent on m'a dit que je chantais faux et je dois bien me rendre à l'évidence, c'est vrai. Mais je n'ai pas résisté à commencer cette émission avec cette chanson que je connais depuis longtemps et qui, me semblait-il, illustrait assez bien le propos d'aujourd'hui, puisque nous allons parler du calembour avec vous, Marie Trèpe, et à propos du livre que vous avez fait paraître tout récemment aux éditions Vibert et qui s'appelle « Enchanté de faire votre plein d'essence ». Et donc, c'est un livre sur les calembours, et le calembour que je viens de me permettre, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous le présenter.
Ben, je crois bien que si.
Non, c'est pas vrai. On vous a jamais dit « Marie Trèpe, non pas moi ». Chaque fois que je pense à vous, je... Et bien avant que vous ne fissiez ce livre qui est consacré au calembour, je pensais toujours « Marie Trèpe, stompin dans la soupe ».
Oui, Trèpe de plaisanterie, mon cher. Non, en voilà un que je fais souvent moi-même. C'est vrai que mon nom se prête au calembour, comme beaucoup de noms.
Le mien aussi, ça, je peux vous l'assurer, j'en ai eu mon compte. Et il y a des gens qui continuent. Hein.
Oui, mais c'est tellement drôle, pourquoi s'en priver?
Ouais. Les calembours sur le nom... Au bout d'un certain temps, et surtout d'ailleurs quand on est enfant, c'est un petit peu blessant.
Oui, c'est un peu blessant, c'est stigmatisant aussi, mais c'est tentant.
Alors, puisque vous avez consacré un livre au calembour, je vais commencer par vous poser cette question très simple. Qu'est-ce qu'on appelle un calembour, Marie?
Alors, c'est un livre qui est consacré à la fois au calembour et au pataquès. Et j'ai mêlé les deux. Alors, un calembour... le mot, si on veut faire un peu d'étymologie, le mot est apparu au XVIIIe siècle, pour la première fois en français, dans une lettre de Diderot à son amie Sophie Volant. Et on faisait un grand usage à l'époque, dans la bonne société, du calembour. Et on en faisait déjà un usage un petit peu provocateur. Alors, par exemple.
Ce mot de calembour, il ressemble un petit peu à calembredaine.
Voilà, c'est un mot, il y a plusieurs hypothèses, mais... on n'est pas sûr. Alors, au XVIIIe siècle, en 1770, un certain marquis de Bièvre, qui aimait commettre, comme on dit souvent, des calembours, a écrit une lettre à Madame la Comtesse Tassion. Et il chahutait avec les idées nouvelles, celles de Voltaire, qui n'était pas du tout content, et qui d'ailleurs a parlé du calembour en termes péjoratifs, en disant que c'était la pire espèce du faux bel esprit. Mais à cette époque-là, c'est quand même d'Alembert, au moment de la rédaction de l'encyclopédie, a demandé à ce marquis de Bièvre de rédiger l'article calembour. Donc à l'époque, on commence à jouer avec ça, à s'amuser avec ça. On l'écrivait avec un K.
Donc en gros, un calembour, c'est un jeu de mots.
Fait par des gens d'esprit, qui jouent avec leur culture.
Oui, et qui oscille entre deux mots, en fait. C'est une espèce de mouvement de va-et-vient entre deux mots dont les deux sens vont s'entrechoquer, c'est ça?
On joue à la fois avec les sonorités, l'homophonie et pas l'homophobie, et la sémantique, le sens. La polysémie, et pas la polynésie. Voilà. Et on fait aussi, c'est des gens qui mettent en jeu leur culture, qui s'amusent, qui font joujou avec leur culture, en la bousculant un petit peu. Et c'est aussi, on peut dire, une plaisanterie allusive. On ne donne pas la solution. Oui. C'est établi une complicité entre celui qui donne et celui qui reçoit.
C'est vrai. Et très souvent, ça joue aussi avec le non-sens et avec l'absurde. Avec des calembours dont on peut dire que les ficelles sont bien grosses. Quand on dit « Comment vas-tu, yo de poil ?» ça veut rien dire du tout. Et simplement, on poursuit la phrase « Comment vas-tu » avec « Tu, yo de poil ». C'est-à-dire « Tu, yo de poil ». C'est même pas très bien prononcé. Et on sait pas pourquoi on dit tuyau de poil, mais on le dit comme ça.
C'est pas tout à fait un calembour, ça, mais c'est un peu
quand même partie de la famille élargie, de la famille recomposée du calembour, disons.
Au lieu de dire enchanté de faire votre connaissance, on va dire enchanté de faire votre plein d'essence. Et quel que soit le niveau de langue, la maîtrise que nous ayons de notre langue, on peut toujours en jouer. Et à plusieurs, c'est plus drôle. Et c'est pour ça, l'exemple que je viens de vous donner, c'est d'avoir chahuté des formules de politesse. La conversation, c'est un terrain ludique idéal pour ces plaisanteries allusives. Mais il y a aussi, d'un autre côté, le pataquès, qui est le fait de gens qui ne maîtrisent mal la langue et qui ne sont pas très à l'aise avec la multitude de références culturelles qui agrémentent la langue française. Mais ces gens-là, pour introduire un peu de faste dans la conversation, vont recourir à des expressions millésimées.
Qu'est-ce qu'on appelle une expression millésimée?
Par exemple, vieux comme Hérode, des choses qui traînent dans la langue, que
dont on n'a plus les références,
mais dont on comprend très bien le sens. Donc, ils vont aller chercher ces expressions, et ils n'ont plus l'idée de qui est Hérode, ils ne savent pas que c'est un roi qui était placé sur le trône de Jérusalem par les Romains.
On ne sait même pas trop qui c'est, parce qu'il y en a plusieurs qui s'appelaient Hérode.
Oui, non, mais celui-là,
et on dit
c'est,
que certains d'entre eux seraient morts très vieux.
Oui, les vieux comme Hérode, alors c'est plutôt le fait qui est ancien. Ça date de Jérusalem, comme on dit aussi fautivement, de Mathusalem. Mais surtout, même si on ne sait pas qui est Hérode, on connaît très bien le sens de l'expression. Ça veut dire épouvantablement vieux, horriblement ancien. Et si on va, on va vouloir, même si on ne connaît pas la référence, transporter le sens, et en modifiant, en jouant avec les sonorités tout à l'heure, l'homophonie, pour employer un terme savant, trouver une expression qui transporte le même sens. Et on va dire vieux comme mes robes, parce que les femmes sont supposées n'avoir plus jamais rien à se mettre en ouvrant leur penderie. Donc le sens passe, l'expression est un peu chahutée, mais le sens passe. Et c'est ça qui est essentiel. Et le pataquès, c'est comme le calembour, un jeu avec le sens, un jeu volontaire ou un jeu involontaire, soit dans un premier sens, avec le calembour, on pervertit le sens, soit avec le pataquès, on essaye de le restituer. Et les gens qui font des pataquès, dans un sens, je voudrais réhabiliter aussi le pataquès, sont des gens qui ne manquaient pas de fantaisie et qui se lançaient dans la parole comme ça. Moi, j'ai souvenir de personnages dans ma famille ou autres qui faisaient des pataquès à qui mieux mieux et je m'en régalais. Par exemple, une de mes sœurs, qui un jour que j'étais étudiante dans une ville assez éloignée de là où habitaient mes parents, une de mes jeunes sœurs, je me plaignais d'un voyage, le train, il y avait beaucoup de monde, j'étais fatiguée, elle me dit « Ah oui, le train était bombé pour bonder ». Bon, voilà. Et il y a des gens qui font ça spontanément, et ça n'est pas idiot parce que l'image est forte. Je crois qu'en fait, le calembour et le pataquès, c'est la fête des images.
Bah, souvent, c'est quand même l'inconscient qui parle. Hein.
Alors, c'est l'inconscient qui parle.
Et on ne peut que penser à ce que Freud en a dit, puisqu'il a vraiment travaillé sur le jeu de mots, le mot d'esprit, son rapport avec l'inconscient.
Ouais.
Mais très souvent, justement, quand on fait une erreur et qu'on dit un mot à la place d'un autre, c'est parce que justement, on a un esprit qui a dévié d'un sens vers l'autre.
Oui,
et que c'est ce qu'on pense profondément, de façon plus ou moins consciente, qui va s'exprimer. Et c'est cette distorsion qui va faire rire.
Oui, le décalage entre l'expression réelle et l'autre. Et alors, le pataquès ne manque pas d'intérêt. La preuve, c'est que les calembourdeurs professionnels, j'allais dire, comme Frédéric Dard, comme Coluche, comme un tas de gens
de Français, qui nous écoutent peut-être, ou ailleurs, le père de San Antonio.
De San Antonio, vont s'emparer d'un pataquès pour en faire un calembour. Mais, comme le calembour fait mauvais genre, ils vont dresser un paravent de vertu, c'est-à-dire prendre une précaution oratoire du genre, dans le pire des cas, comme dit ma femme, ou comme dit ma concierge, ou comme dit mon beau-frère, pour pouvoir lâcher un pataquès et le récupérer comme un calembour
ou comme dit Berruyer,
puisque
vous parliez de Frédéric
Dard, comme dit Coluche, disait
Berruyer, c'est donc un personnage de ces enquêtes du commissaire San Antonio, et c'est celui qui fait toujours des bourdes et au-delà des calembours, et il dit of course à la place de of course.
Oui. Et alors, donc il y a cette espèce de mauvais genre du calembour, c'est, je crois, des sortes d'objets kitsch dans le langage. C'est pourquoi j'ai tenu à cette couverture rose, très rose, du livre, pour manifester ça. Qu'à la fois on a des gens, un baise-main, des gens qui sont de très bon ton, et calembour et pataquès sont à la fois intéressent les gens, la bonne société, et aussi le populaire.
Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant des idées. Elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais ce n'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle avanie. Avanie et framboise sont les mamelles du destin. Pour sûr qu'elle était d'Antibes, c'est plus près que les Caraïbes. C'est plus près que Caracas. Est-ce plus près que Pézenas? Je ne sais pas. Et tout en étant française, l'été tout de même anti-baise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne me mettait pas à l'aise de la savoir anti-baise. Moi qui serais plutôt pour moralité, à vanille et mamelle sont les framboises du destin.
Alors, ce qui est étonnant, Marie Trèpe, c'est que les calembours, de temps en temps, s'ancrent dans la langue. Et vous parliez tout à l'heure des expressions qui sont toutes faites, des expressions figées, qu'on cite en se trompant. Mais l'erreur devient une autre expression toute faite de
bien
temps
sûr.
En temps. Et bien souvent...
L'expression toute défaite.
Bah, toute défaite, exactement. Donc oui. Vous en faites un petit répertoire dans votre
oui,
livre.
Oui, il y a des choses étonnantes. Par exemple, « copain comme cochon », qui était à l'origine « copain comme sausson ». Le latin « socius » veut dire « allié », donc avoir des relations de camaraderie avec des gens avec qui on a des liens. L'expression est tout à fait justifiée, on la comprend. Et puis, comme il arrive dans la langue française, des mots disparaissent. Et « sausson » a disparu. En utilisant les sonorités aussi, « sausson »,« cochon » remplacé par « cochon ». Pourquoi ? Parce que ça paraît pas incongru, les cochons ont l'air de vivre ensemble, d'être en assez bonne compagnie ensemble. Et puis aussi, il y a eu toutes les valeurs un peu péjoratives, avec sexuelles de cochons chez les hommes.
Oui,
donc,
mais en
on
même
imagine
temps,
des
ça,
gens
ça
qui
ça
font bamboche.
On a gardé les vaches ensemble ou on n'a pas gardé
oui,
les vaches
cochons ensemble.
Hein,
les cochons ensemble, exactement. Et je crois que l'expression aurait disparu, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, si l'image avait disparu. Sauf ça, on ne peut plus comprendre l'image. Tandis que cochon, on voit une image, une troupe de cochons, et voilà, l'expression a pu... toute défaite, toute déformée, poursuivre sa carrière.
Non seulement elle poursuit sa carrière, mais elle a totalement éclipsé les expressions précédentes.
Il y en a d'autres, comme tomber dans les pommes.
Tomber dans les pommes, on connaît tomber dans les pommes, qui est familier, on ne connaît absolument pas l'origine de l'expression. En tout cas, elle n'est pas dans la langue. On peut la connaître si on est linguiste, ouais.
Oui.
Mais elle n'existe plus dans la langue. Alors, vous allez nous dire quelle elle est, Marie Trèpe.
Derrière le mot pomme, il y a un mot qui est évacué, qui est pâme, pasme, comme dans le verbe, se pâmer ou pâmoison. C'était tomber en pâme. Moison. Et puis, on a oublié le mot et on l'a remplacé par pomme. Alors, Dunton disait que...
Alors, Claude Dunton, oui,
je salue sa mémoire, là,
oui.
En passant, disait que c'est l'incongruité de l'image ne choque pas. Tomber dans les pommes, c'est vrai, ça choque pas. Moi, je crois que on peut dire ça, mais surtout que c'est quand il n'y a plus d'image que c'est très choquant. Et une expression qui n'est plus, décryptable, derrière laquelle on ne voit plus se dresser une image, bah, elle va disparaître.
Oui, et il y en a...
Aller à volo, on comprend pas au fil de l'eau, vieille expression, on va dire aller à vélo, parce qu'on a tout de suite l'image de, hop, quelque chose qui s'éloigne dans la campagne.
C'est vrai, mais c'est rare. On a encore l'impression que quand on dit aller à vélo pour
c'est
aller à volo, c'est une blague ou c'est une
oui,
erreur.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors que
elle
quand on dit tomber dans les pommes, c'est totalement attesté. Copain comme cochon aussi. Clouer le bec, c'est la même chose. Encore une expression que vous citez.
Clouer, je crois que le verbe qui est derrière, c'est clore. Voilà, l'ancienne... D'ailleurs, en Auvergne, on utilise toujours... le verbe clouer. Quand on sort de chez soi, par exemple, en Auvergne, on dit « t'as bien cloué la porte ». La première fois qu'on m'a dit ça, j'ai été un peu surprise et ça veut dire clore, effectivement. C'est une forme ancienne du verbe clore.
C'était Yabel Lurette.
C'est ça. C'était Yabel Lurette qui veut dire, effectivement, encore un bon exemple d'expression parfaitement conforme aujourd'hui alors qu'elle est trafiquée, c'est « il y a une belle heurette, une belle petite heure qu'on n'entend plus ».
Alors, toutes ces expressions, Marie Trèpe, sont maintenant absolument correctes. Copain comme cochon, belle lurette, tomber dans les pommes. Mmh. Il y en a qui ne le sont pas, mais qui vont faire naître comme une complicité entre celui qui parle et celui à qui on parle, parce qu'on sait qu'on détourne l'expression. Quand on dit, par exemple, « t'as qu'à me prêter ton appareil, là, et le lycée de Versailles », très souvent, on dit « et lycée de Versailles » pour dire « et vice-versa
oui. ».
C'est-à-dire inversement.
Oui. Et je pense qu'il y a même beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être dans les jeunes générations, qui ne savent même pas que derrière lycée de Versailles, il y a le latin vice versa. Ça, les pages roses sont riches d'expressions qui ont été... Les pages roses
jaunissent.
Les pages roses, les petits Larousse jaunissent. Ah, très joli, oui. Voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est, le lycée de Versailles, c'est devenu tout à fait courant.
Oui, c'est un peu comme vieux comme mes robes, quoi.
Vieux comme mes robes, oui, c'est sûr.
C'est courant, à tel point qu'il y a des gens qui ne... qui ne savent pas qu'il y a vieux comme Hérode derrière. Mais il y a beaucoup de gens qui le savent encore. Donc là, on est dans un espèce d'entre-deux. Ça fait partie aussi du charme de ces expressions. Et il y en a qui sont moins connus. Alors, on dit, tu m'as enduit d'erreur.
Ah oui, alors là, on profite d'un accident phonétique. C'est-à-dire induire en erreur qui donne enduire en horreur même.
Ah, il y a aussi enduire en horreur. Je le connais parce que c'est dans votre livre, mais avant je le connaissais pas.
Alors là, c'est difficile. Même vieux comme Hérode, est-ce que c'est un calembour, est-ce que c'est un pataquès, c'est difficile à dire. Alors il y a les termes de. J'ai écrit une nouvelle aussi qui est intégrée à ce livre. Fait parler un personnage comme ça qui me rappelait quelqu'un que j'ai connu dans les années 80. Les termes de médecine sont forcément pataquessé ou calembourdé, parce qu'ils sont imprononçables. Même les médecins utilisent ce genre de pataquès, de calembour.
Je pense à
colique frénétique et colique apathique. Colique frénétique, c'est celle qui vous rend fou.
Enfin, c'est très joli, c'est horrible.
Celle qui met les reins en jeu, néphrétique.
Douloureux.
Oui, oui.
Au départ,
et les apathiques, ce sont les coliques hépatiques qui, au contraire, vous rendent tout ras, plat, plat.
Ouais.
Voilà.
Donc c'est hépatique à la place de hépatique et frénétique à la place de néphrétique.
C'est lexicalisé dans le vocabulaire
technique. Oui, c'est ce qu'on appelle une métathèse, en fait, c'est-à-dire qu'on inverse des consonnes et des voyelles.
En termes galants.
Voilà.
Ces choses-là sont dites.
Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8e, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a John Cap Dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia, il en a chié 20 ans. Pour en arriver là, maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon, il peut pas, il lui reste à payer de la vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribu absent triste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8e. Le HLM, au deuxième, dans mon HLM, y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y en a un qui est chômeur, y en a un qui est instit, y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y a des matelas par terre, les voisins sont furax, ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la montre du 8e.
Alors, Marie Treps, vous disiez tout à l'heure que les écrivains.
Oui.
Et les intellectuels se sont beaucoup intéressés au calembour parce que ça les tentait, mais qu'en même temps, il y avait un effet répulsif du calembour. Alors, on pense évidemment au mot célèbre de Hugo.
Le calembour, c'est la fiente de l'esprit qui vole. Oui, voilà. Et qu'après avoir pondu, l'esprit s'envole vers l'azur. J'ai plus la citation exacte. J'ai fait dans l'introduction une sorte de procès du calembour avec les tenants, les pour et les contre. Jean Dutour qui évoque son beau-frère, qui ne peut pas s'empêcher. Victor Hugo, qu'on peut mettre au nombre des défenseurs, quand même, du calembour. Et puis, j'ai aussi remarqué que les...
Il se moquait un peu de lui, Victor Hugo, parce qu'on voit bien que quand il dit que le calembour, c'est la fiente de l'esprit qui vole, et qui, donc, va brocarder le calembour, c'est parce que c'est trop tentant et qu'il y a cédé trop souvent, peut-être.
Oui.
Il se met en question lui-même, je pense.
Oui, il y a eu d'autres défenseurs et qui ont été aussi... Je vous donne un exemple tout de suite, Perec. Qui était un grand amateur de calembour. Dans sa correspondance avec Lédrer, il y en a à foison. Mais lui-même avait inventé Marcel Proust.
Oui.
Donc il se moquait d'un écrivain qui était... Or, Proust est quelqu'un de très intéressant, parce qu'on trouve le calembour chez les meilleurs auteurs, Proust en particulier.
Il adore ça.
Intéressant parce que il s'en sert pour... Oh, j'aime pas le mot typologiser. Pour donner du corps et donner à ces personnages. Par exemple, il fait parler du côté de la cuisine, sa gouvernante, Françoise, qui fait pataquès sur pataquès. Et au cours de ce procès, je cite Proust, qui dit elle faisait cuir sur cuir. Et puis ensuite,
la cuisinière faisait cuir. Là, vous n'êtes pas loin du calembour, ou en tout cas, du jeu de mots. Quand vous dites la cuisinière faisait cuir sur cuir, excusez-moi, c'est peut-être l'inconscient qui parle. Oui, je doute que vous l'ayez fait exprès, mais c'est très joli.
Cuir, c'est le mot ancien pour désigner un pataquès, c'est UIR, un cuir. Voilà.
Et un pataquès, au départ, c'est une faute de liaison.
Oui, on en parlera après. Donc, elle fait cuir sur cuir et il lui reproche. Et après, il s'en veut lui avoir reproché parce qu'il dit, mais au fond, notre langue a évolué et il y a d'anciens calembours, d'anciens pataquès qui sont aujourd'hui des choses tout à fait correctes. On en a donné des exemples. Mais il fait parler aussi au salon, dans le même temps, Oriane de Guerbante, qui, sans s'abaisser, se livrait à de vulgaires à peu près. Et à peu près, c'est le nom ancien aussi du calembour.
Oh, ça existe encore?
Oui, ça existe encore, mais c'est comme cuir, quoi. Il y a deux termes, il y a cuir et à peu près, et calembour et pataquès. Et ça permet de dire, c'est très bien vu, c'est-à-dire dans la bonne société, on joue avec ces choses-là, tout à fait volontairement. Dans le peuple, on commet d'autres sortes d'outrages au bon sens langagier, mais involontairement.
Ce qui est étonnant, c'est que Proust très souvent parle des calembours en les mettant ou en les relevant dans la bouche de ses personnages. Vous parlez de Françoise.
Ça. Il y a le liftier de Balbec.
Oui, il y a le directeur du Grand Hôtel qui est le spécialiste du genre.
Mais qui, au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles langues, perdait l'usage de la première, le français.
Et en même temps, parfois, ce sont des personnages qui sont beaucoup plus lettrés qui en font. Et quand il dit charlatan en parlant de Swann, puisque l'un de ses personnages principaux s'appelle donc Charles Swann, et qui dit à un moment, je ne sais plus exactement à quel moment, mais parce que justement Swann attend Odette et que Odette se fait désirer, dans tous les sens du terme, il va s'autoriser ce calembour.
Mais se l'autorise à la place de quelqu'un de lettré, etc., qui sans s'abaisser, effectivement, joue avec ces choses-là. Pour jouer avec ces vieilles expressions culturelles, là, ce n'est pas le cas, mais il faut avoir cette culture-là.
Alors, il y a des moments où il cite des phrases qu'on connaît encore et qui sont extrêmement charmantes, du genre « c'est là que les Asténiens s'atteignirent ».«
Que les Perses se percèrent ».
Et « que les Satrapes s'attrapèrent ».
Que les Satrapes s'attrapèrent, oui. Ça, mais c'est des blagues de Cagneux, je dirais.
On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Hein. Dès la seconde, on peut dire « c'est là que les Athéniens s'atteignirent ».
Oui, c'est le fait de jouer avec sa culture à deux, c'est-à-dire un qui révèle quelque chose et l'autre qui écoute. Et en fait, l'un et l'autre, activement ou passivement, on transgresse quelque chose, en bousculant sa culture et en bousculant les mots. Et on jouit de quelque chose qui est la révélation d'un sens inattendu et de la jubilation qui l'accompagne. C'est ça qui est intéressant. Mais tacitement, c'est-à-dire c'est comme dans les contrepétries, on ne révèle pas. Ça reste une plaisanterie allusive.
Et très souvent, ce sont donc des écrivains qui ont fait l'éloge du calembour. Alors, il y a un texte étonnant que vous citez à plusieurs reprises, qui est un texte de Beaumarchais qui s'appelle « Jean Bête à la foire ».
Ah oui. Alors, le calembour, en fait, on déguise les mots pour les rendre subversifs. Mais c'est comme sous un masque carnavalesque, on peut dire des choses qu'on ne pourrait pas se permettre de dire en temps normal, sans ce masque. Donc ça évoque une autre fonction du calembour, qui est celle de jouer ou de dénoncer les tabous scatologiques et sexuels. Et dans Jean Bête à la foire, il y a quelque chose de très joli. On parle de... C'est Arlequin qui prononce l'expression « sesque fulminant ». Alors il a à peine voilé le mot « sexe », l'a déformé de manière assez enfantine, on pourrait penser que c'était un enfantillage, mais ce voile-là qu'il a jeté, en fait, révèle plus qu'il ne cache. Et il l'associe à un adjectif imaginaire, qui est fulminant, derrière lequel aussi on devine très facilement féminin, mais qui, fulminant, évoque aussi la foudre, la colère. Donc ce sesque fulminant, c'est à mettre au compte soit des propos misogynes ou au contraire de la lutte contre la misogynie.
C'est une belle image phallique quand même.
C'est une belle image. Absolument, oui. On en revient à Freud tout à l'heure. Mais il y a des choses aussi dont je n'ai pas parlé dans le livre, je crois, j'ai dû oublier, qui m'est revenu, qui a à voir avec la psychanalyse et ce dont vous venez de parler. Une psychanalyste qui m'avait raconté ce que lui avait dit une de ses patientes. « Mon mari est insupportable, il n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les trous. »
Mais écoutez, hommage à votre ami psychanalyste et à sa patiente, en tout cas. Encore un dernier mot sur la nouvelle qui court et qui se faufile dans votre texte et qui s'appelle donc le roman de Madame Rose.
Oui, et Patati et Patakès ou le roman de Madame Rose.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? C'est une nouvelle où vous avez voulu multiplier les calembours?
Après avoir écrit Calembourde, j'avais écrit ça et je m'en souvenais plus, au fond. J'avais mis ça dans un coin pour m'amuser, parce que ça m'était venu. Et puis là, j'ai proposé à mon éditeur de les terminer à cette occasion-là. J'ai proposé et je me suis dit, ils m'ont dit, bah oui, pourquoi pas, au fond. Et ça m'avait amusé, de mettre en scène un personnage populaire. C'est une... comment est-ce qu'on dit aujourd'hui? Parce qu'il faut ne plus dire n'importe quoi. C'est une employée de maison.
On a encore le droit de dire n'importe quoi.
C'est une bonne, en fait. Hein. Une employée de maison qui travaille dans une famille très bourgeoise et qui tient son journal, pourquoi pas. Mais qui écrit, comme elle parle, c'est-à-dire en se prenant les pieds dans le tapis de la langue à la première occasion, et qui observe ce petit monde et qui raconte à sa manière. Ça m'a beaucoup amusé d'écrire ça, et ce roman de Madame Rose, c'est une espèce d'hommage aussi, à la fois aux gens qui aiment faire des calembours et à ceux qui commettent des pataquès, parce que je crois que les uns et les autres, en chahutant, en lutinant, en bousculant notre chère vieille langue française, eh bien, ils la rajeunissent.
Bah écoutez, merci beaucoup Marie Treps de nous avoir parlé de ces calembours et d'avoir commis, comme vous dites, ce charmant petit livre qui s'appelle « Enchanté de faire votre plein d'essence » et qui est sous-titré « Autre joyeuse calembourde » et publié à la librairie Vuibert. Et merci bien donc d'avoir été dans La Danse des mots, qui est une émission proposée par RFI et par le Centre National de Documentation Pédagogique, Vincent Porra, Véronique Durand, Yvan Hamard.